On a voulu réfléchir un peu aujourd'hui à Tam Tam sur le concept de littérature amérindienne francophone aujourd'hui. Mes invités, elle est réalisatrice et les poètes, Joséphine Bacon. Madame Bacon, bonjour, bienvenue.
Oui.
Oui, à vous aussi, miigwech, de gentil d'être là. Mauricio Gatti, qui est chercheur associé au Centre universitaire d'études et de recherche autochtones de l'Université Laval à Québec. Bon retour.
Bonjour.
Bonjour. Et l'auteur, M. Jean Désy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, Madame Bacon, j'ai lu quelque part, vous disiez, c'est très important que ma langue, la langue innu, puisse s'écrire en poésie.
Oui.
Parce que?
Parce qu'il faut continuer à la parler, et maintenant, on l'écrit. Mm-hmm. Donc, elle restera toujours vivante si elle est écrite. Et puis, on va pouvoir continuer toujours à la parler aussi.
Mais vous écrivez aussi en français?
J'écris aussi en français.
Tel est le thème, justement, de cette conversation, de l'écriture autochtone, aujourd'hui, en se servant de la langue française. Le message, quand on passe d'une langue à l'autre, est-ce que le message est le même? Est-ce que la façon de dire est la même? Est-ce qu'on touche aux mêmes fibres en dedans de soi?
Ça dépend. Si on a le message est le même. Parce que quand je commence d'abord à écrire dans ma langue, je vais d'abord penser en innu, dans mon identité. Après ça, je prends ma langue et j'essaie de le traduire dans la langue de l'autre. Et puis, quand j'écris d'abord en français, alors j'essaie de passer la pensée innu dans ma langue pour les miens.
C'est bon. Jean Désy, vous êtes un amoureux du Nord et amoureux de ces grands espaces. Vous en avez écrit beaucoup là-dessus. Vous enseignez à l'Université Laval. Mais c'est une approche qui est complètement, il y a trop souvent, mise de côté la littérature, les cultures amérindiennes, dis-je, ici, dans les cursus universitaires. On commence à rentrer un peu plus ou à présenter un peu plus de cette culture-là. On commence à avoir des gens qui sont un peu plus intéressés à ces écrits.
Je ne sais pas si les universitaires ou les intellectuels sont encore très, très intéressés. Tout ce que je peux dire, c'est que ces années-ci, grâce à Mauricio, qui avait fait la première anthologie de littérature francophone amérindienne, puis parce que j'ai eu la chance de connaître Joséphine grâce à un livre important, à mon point de vue, Amititao, Parlons-nous, qui avait été réalisé par Laure Morali et publié chez Mémoire d'Encrier. Ces années-ci, il se passe quelque chose qui, à mon sens, comme écrivain, s'était jamais passé dans l'histoire du Québec francophone. Il existe, pour vrai, depuis quelques années, une littérature amérindienne, autochtone, francophone. Et Joséphine en est un exemple extraordinaire. Joséphine et José Aclin, un de mes amis poètes, viennent de publier, d'ailleurs, un recueil remarquable, à mon point de vue. Là. Nous sommes tous des sauvages. Mm-hmm. Ça vient de sortir chez Mémoire d'Encrier. Et moi, j'ai eu la chance, à cause, justement, de cette espèce le fait que j'ai pu communiquer avec les Innus, avec Amititao, d'être le mentor d'une jeune femme remarquable, Naomi Fontaine, qui a publié encore récemment un roman qui s'appelle Kwesipan, qui se passe dans le Nouchimit. Mais ça, c'est une parole d'Innu, jeune, elle vient d'avoir 23 ans, là, et francophone. Et comme le dit Joséphine, c'est vrai, à tout prix, il faut que la langue Innu puisse prospérer. Et je pense, moi, que ce que je découvre, c'est que la beauté des langues autochtones, l'inuktitut, le cri l'inu, plus ils vont prospérer, plus c'est le fait français dans ce Québec qui va pouvoir lui aussi prospérer. Ça va ensemble.
Ça va ensemble?
Ça va ensemble. Nos avenirs sont communs. Moi, je l'ai toujours pressenti. Là, ça fait 30 ans que je bourlingue dans le Nord. Mais l'avenir du peuple canadien-français au Québec dépend intimement de son lien plus qu'étroit avec les Autochtones. Mmh. Ça fait partie de nous, historiquement, géographiquement, et plus que jamais. Le Nord, le monde nordique, 80% du territoire québécois habité par les Autochtones, c'est un pays qu'on partage, qu'on doit aimer. Et la langue, le rapport à la littérature est fondamental là-dessus. Mmh. Et là, il se passe quelque chose qui, à mon point de vue, là, je ne veux pas trop être enthousiaste de façon utopiste, là, mais je ne pense pas que ça s'était passé encore, l'éclosion d'une littérature innu, entre autres. L'extraordinaire chose avec les Inuits, c'est qu'ils sont francophiles, francophones. Mm-hmm. Si je parlais autant Inou, moi, que Joséphine parle français, là, on irait loin.
Tout un compliment, ça, ma chère.
C'est gentil.
Maurizio Gatti, on vous avait reçu à ce micro-ci, justement, à la publication de l'anthologie. Ça, c'est génial. C'est quelqu'un qui vient de Rome, en Italie, qui vient faire une anthologie et qui est la référence en littérature amérindienne francophone au Canada. Je vous l'avais déjà dit à l'époque, elle est pas mal. Et je vous repose la même question que j'ai posée à Jean Désy au niveau universitaire. Comment vous le percevez?
Écoutez, moi, quand je suis arrivé au Québec en 98, effectivement, parler de littérature amérindienne, je dois dire, il y a eu des profs d'université qui m'ont vraiment ri au visage. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui en 2011. Effectivement, il y a de plus en plus de profs de littérature qui enseignent des auteurs autochtones, qui enseignent des auteurs autochtones au cégep. Donc, ça m'arrive de plus en plus de rencontrer des professeurs qui me disent « Oh, j'ai fait lire Joséphine Bacon à mes étudiants québécois, mes étudiants autochtones, ils ont adoré, c'était un nouveau point de vue, etc. etc. » Et même au niveau universitaire, de plus en plus dans les cours de littérature québécoise ou de littérature francophone, ils utilisent des textes d'auteurs et le résultat est bon. Je pense que dans les dernières années, grâce à Internet, grâce aux auteurs qui ont publié de plus en plus, grâce à des maisons d'édition qui se sont impliquées dans la publication d'auteurs, ils sont de plus en plus accessibles. Ils écrivaient et publiaient depuis les années 70, mais vraiment dans les dernières années, il y a cette visibilité qui est là. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir de plus en plus que ça devient une normalité d'avoir des auteurs autochtones dans le cursus universitaire,
collégial,
autant que d'autres auteurs. Et moi, c'est cette notion de normalité qui me plaît parce que, ben justement, les étudiants les côtoient de plus en plus. Bien entendu, c'est encore sporadique, mais ça devient de plus en plus une habitude. Alors, ça, je trouve que c'est extraordinaire, justement, comme le disait Jean.
Joséphine Bacon, le sentez-vous, ce changement?
Qu'il y a de plus en plus de...
Une ouverture de l'autre, du blanc, disons, vers la culture amérindienne, vers les écrits amérindiens, d'origine autochtone?
Oui. Oui, oui, on le sent très, très bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'Indiens qui écrivent. Surtout pour... Il y a des ateliers qui se donnent, par exemple, par Jean Siwi, qui est lui-même
Wendat.
Poète, qui est Wendat et poète. Et il enseigne l'écriture, la littérature et la poésie à des Indiens qui viennent suivre pendant... un mois, je pense, des ateliers d'écriture qui sont donnés par des romanciers, des poètes.
Il y a des gens de cinéma aussi.
Il y a des gens de cinéma aussi.
Par exemple, aussi même d'Alanis Obomsawin, Abenaki.
Oui, Wabanaki.
Wabanaki, c'est ça. Je l'avais dit à l'occidental, de fait, désolé. Une culture qui était très, très... qui sont des cultures très, très orales. Le passage de l'oralité à l'écrit, est-ce qu'il y a des écueils là-dedans?
Quand tu passes de l'oral à l'écrit, là, quand tu passes de l'oral, c'est parce que tu écris d'abord dans ta langue.
Expliquez-moi.
Pour écrire, pour passer de l'oral, il faut que tu as ta vision d'abord dans ta mémoire, dans ta pensée. Après, tu l'écris. Donc, c'est oral quand tu penses dans ta tête et puis dans ta mémoire et dans tes souvenirs, ça devient de l'oralité. Alors, après, c'est ça l'oral. Après, tu passes de l'écrit. Tu l'écris dans ta langue. Et puis, pour le partager avec tout le monde, alors tu l'écris dans la langue de l'autre.
Et éventuellement d'être traduit dans d'autres langues et de se retrouver, par exemple,
ailleurs
dans le monde, c'est ça. Pendant très, très longtemps, il y avait un clivage hallucinant, il y avait une séparation qui était une chape de plomb, je dirais, sur un silence de « ça, c'est pas nous, ça, c'est… » et ainsi de suite. On parlait des sauvages, par exemple. On parlait pas des. Il y a eu un changement de dans l'appellation de sauvage à amérindien, à autochtone, à première nation. Ça va aller jusqu'où ça, j'en dis.
En fait, ce qui me rend vraiment enthousiaste ces années-ci, là, c'est que tout à coup, que des Innus, parlons des Innus, c'est surtout eux qui écrivent en français, se mettent à parler. Quand Joséphine ou Rita Mestocosho ou Naomi Fontaine écrivent, tout à coup, ils expriment une voix qui, jusqu'à maintenant, ne s'était pas encore exprimée de cette façon-là. Dans l'histoire de la littérature québécoise, ça ne s'était pas encore exprimé. C'est une première chose importante. C'est comme la littérature des femmes. Avant 1960, je ne suis pas certain qu'il y avait des milliers de femmes qui publiaient en français au Québec. La voix des femmes est remarquable depuis 30, 40, 50 ans au Québec. La voix des Autochtones commence à naître. Déjà, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est nouveau, ça n'a pas existé encore.
Mm-hmm.
Et pour répondre à votre question, quelque part, on sent bien, moi je sens dans mes tripes, comme Canadien français d'origine, comme Québécois, comme quelqu'un appartenant à la péninsule Québec-Labrador, que les Indiens de la Côte-Nord et moi, quand je suis sur la Côte-Nord, on forme une seule et même race de monde. Et notre devoir, c'est d'aimer le pays où on est. C'est d'abord ça. Je veux dire, ce que les Innus me montrent le mieux, moi, en riant sur la Côte-Nord, c'est qu'ils aiment leur pays. Puis les jeunes d'Attachquan, puis d'Arve-Saint-Pierre, puis de Betsiamite aussi aiment leur pays. En fait, c'est... Et la parole, tout à coup, peut... dit pas des choses si différentes. C'est ce clivage qui existait depuis 150 ans, entre autres, dans notre histoire, s'il peut cesser, si on peut commencer à vraiment dialoguer ce qui existe en littérature, là. Lire Joséphine, lire Josie Aclin et Joséphine Bacon dans un recueil, c'est entendre un dialogue qui est remarquable parce qu'ils parlent. Et je suis pas certain que les Premières Nations, pour l'appeler ça, mais on sent aussi qu'il y a toute une terminologie nouvelle qui va cesser d'exister. Comme le mot amérindien, moi, ça me fatigue toujours un peu. Comme le mot non-autochtone. Moi, d'être considéré comme un nom quelque chose, ça me fatigue. C'est fatigant parce que là, quelque part, là, Joséphine parle des Indiens. Donc, ça cesse d'être gênant de dire les Indiens. Ça cesse d'être péjoratif. Ils ont intitulé leur recueil, Josie Aclin, puis Joséphine, nous sommes tous des sauvages.
Mm-hmm.
Le fait d'être un sauvage, je veux dire, quand je suis dans le bois, moi, j'étais à Waswanipi la semaine passée. Là, j'étais un sauvage dans une forêt boréale que j'aime. Mais j'étais ensauvagé, en tout cas. J'étais pas un sauvage barbare, là. J'étais un sauvage dans le meilleur de ce que je peux être. À ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose de neuf puis d'original qui apparaît puis qui peut changer le cours du destin de notre pays.
Qui peut changer le cours du destin?
Je suis persuadé. Notre pays est lié au monde nordique et autochtonien et nomade.
Mauricio, je vous demandais de faire un parallèle avec quelque chose dont on avait déjà parlé à l'époque, mais dans ce que Jean-Désy vient de dire. L'utilisation de la langue venue d'Europe au Canada anglais par des auteurs d'origine autochtone, ils s'appellent comment, là?
Comment indien? Indien, si ça ne fatigue pas Joséphine.
Moi, je préfère indien.
Indien, bon. Chez les auteurs indiens, canadiens, qui utilisent l'anglais au Canada, c'est très présent.
Oui.
Ça, c'est en train d'émerger de belles façons dans le monde francophone, mais... La question, justement, de l'utilisation de la langue pour de l'autre, de l'anglais, prendre sa place, prendre une place dans ce pays-là, dans cette nordicité-là, est-ce qu'on le sent aussi au Canada anglais? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Vous disiez à l'époque qu'il y avait peut-être quelques années d'avance sur les publications qui étaient faites par des auteurs indiens, anglophone, Manitoba, en Alberta, dans le territoire du Nord-Ouest?
Effectivement, déjà, les Amérindiens, moi, je vais continuer avec le temps qui fatigue Jean, excuse-moi, c'est pas habituel. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, étant donné que le bassin de la population est plus nombreuse, il y a eu plus d'auteurs qui, au courant des années, se sont démarqués. Mais ils sont en train, dans les dernières années, de rattraper très rapidement, je trouve, les auteurs au Québec. Et mais justement, elle parlait, Joséphine, tout à l'heure, du programme du Conseil des arts du Canada pour aider les jeunes auteurs. Ça, c'est une institution qui aide les jeunes dans leur formation, mais aussi dans la publication. Ça fait une différence aussi à partir du moment où tu as accès à des fonds pour la publication. Peut-être je réponds pas très bien à votre question, mais je voulais dire une chose par rapport à ce que disait Jean pour compléter, par rapport au clivage dont vous parliez. Moi, ce que j'aime, c'est sûr, je prêche pour ma paroisse parce que j'aime les arts, mais c'est de voir que dans le domaine artistique, on arrive à jeter des ponts. Justement parce que le langage qu'utilisent les artistes, les écrivains, les chanteurs, les cinéastes, les musiciens, permet de créer des ponts qui, des fois, sont plus difficiles à créer dans d'autres domaines, comme ce qu'on connaît.
Il y a des domaines dont on doit parler aussi, parce qu'éventuellement...
Il
faut parler politique et il faut parler dans le monde économique également.
C'est ça, mais je pense qu'il faut, au plus sacré, cesser de parler seulement d'économique. Et la politique nordique du Québec dépend du dialogue entre les individus, les poètes, mais les gens ordinaires aussi. Là, mais plus il y a du monde... J'étais à Waswanipi la semaine passée. Plus il y aura des cris de 20 ans qui vont parler d'eux-mêmes, comme Naomi le fait de Wachat et du Nouchimit, plus ces gens-là vont avoir le sentiment d'exister à part entière. Mm. Et plus le dialogue va être vrai, plus l'avenir politique et économique va être harmonieux. Il faut cesser à tout prix que le Sud considère le Nord comme une terre d'exploitation seule. C'est, à mon point de vue, totalement... impossible de penser que les gens du Nord vont continuer à se laisser exploiter comme ils le sont maintenant. Puis quand je dis les gens du Nord, c'est autant des Autochtones que des non-Autochtones. Mm-hmm. Les gens de Chibougamau, les gens de Mistissini, les gens de Sept-Îles, puis les gens de Shefferville sont tous des gens du Nord. Puis quelque part, leur voix me semble remarquablement plus proche les unes des autres qu'entre les sudistes et les nordistes. Puis quand je dis les sudistes, c'est pas les gens de la Floride, là. C'est les gens des rives du Saint-Laurent. Quelque part, que la parole autochtone vienne montrer la prééminence de la nordicité au Québec, ça, c'est quelque chose d'important. Et il me semble, moi, qu'en lisant des Autochtones dans ma langue, dans la langue française, je découvre des choses que je n'avais jamais lues. Et dernière chose, je pense qu'il faut cesser d'anthropologiser ou de se faire de l'anthropologie ou de l'ethnographie. La parole entre des gens qui se parlent, c'est autrement plus fort que des études d'un groupe, des études de santé. Je veux dire, il va falloir arrêter d'envoyer des policiers, des infirmières, des médecins dans le Nord. Il va falloir que tout le monde se mette à parler, à chanter, puis à faire des arts ensemble. Ça a beaucoup plus d'avenir.
Fais attention à ce que tu dis sur les médecins, parce que tu es médecin dans le Nord, toi.
C'est certain que la population... Il se passe des choses remarquables dans l'univers autochtone. Le monde CRI est en pleine expansion remarquable. Mm-hmm. C'est un univers plus positif que jamais. L'univers Innu, moi, je le sens proche d'atteindre... Il y a des choses fascinantes qui se passent dans l'univers Innu sur toute la côte nord. La côte nord est de plus en plus habitée, véritablement par des Innu qui prennent leur place
et qui prennent dignité. La parole, la romaine, par exemple, et ainsi de suite. Parlez-moi de la jeunesse, Joséphine Bacon. Parlez-moi de vos jeunes, les jeunes de plusieurs communautés, les images qu'on a tellement... C'est tellement sordide, les images qui sont présentées. Alors que, est-ce que c'est exclusivement ça? Non.
Non, pas du tout, non. Non, il y a des jeunes quand même qui font des merveilles, qui font de belles choses, puis qui sont de plus en plus réveillés à continuer, à surtout retrouver le savoir de leurs grands-parents. Et puis c'est comme s'ils redécouvraient leur identité, parce que avec l'éducation qu'il y a eu, ben ils ont comme un peu et puis l'arrivée de la télévision puis de la pizza, ils ont comme un peu oublié, tu sais, ce que leur grand-père et leur grand-mère disaient. Puis maintenant que tu as bien goûté à la pizza, t'as tout regardé, la télévision et tout ça, maintenant c'est comme un besoin de retrouver tes racines, ton identité et retrouver ta parole aussi. Et puis la passer surtout sur d'autres mots qu'on est, que des jeunes, c'est juste une jeunesse perdue parce qu'ils consomment et puis tout ça que... Voilà. Moi, à chaque fois que je retourne dans les communautés, puis que je parle aux jeunes, puis je sens ça revenir très fortement dans leur cœur.
Mm-hmm. En contrepartie, quels seraient les écueils potentiels pour éteindre ça? Ou pour retirer un peu de cet éclat-là? Qu'est-ce qui risque de causer problème, selon vous?
Rien.
Ça, c'est des réponses magistrales, ça. En radio, c'est magnifique. Tiens, pas de l'art, t'as posé ta question, arrange pas pour en trouver un autre.
C'est ça qui arrive avec des poètes qui savent manier la langue.
Maurizio, il y avait le clin d'œil sur la pizza tout à l'heure, mais je vais vous la relancer, vous, la question aussi.
Ben, écoutez, moi, ce que je vois, c'est depuis que je suis arrivé au Québec, depuis 1998, je vois que ça bouillonne dans les communautés, mais aussi... chez les autochtones qui habitent en milieu urbain. Mmh. Et par exemple, moi je trouve que les jeunes ont plein de potentiel, ils attendent juste des occasions pour l'exprimer. Donc là, on a parlé de la littérature, mais moi, quand vous aviez posé la question à Joséphine, j'ai tout de suite pensé au film qu'on voit du Wapikon Immobile. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet.
Absolument.
Avec
Manamba.
Donc ça, c'est alors, des jeunes.
Alors, ce Samian, ici, plusieurs fois, d'ailleurs,
justement,
qui vient de ça, qui écrit, lui, partiellement en français et en algonquin. Puis c'est du rap qu'il fait avec sa grand-mère qui corrige ses textes aussi.
Donc, ce sont toutes des occasions que les jeunes ont de s'exprimer. Donc, la littérature, le cinéma. Moi, je vous ai dit, je m'intéresse aux arts, donc c'est ça que je regarde surtout. Mm. Et de transmettre leurs émotions au public et ainsi de faire passer leur message de façon plus efficace.
Tous les trois, je vous remercie beaucoup d'être venus réfléchir ici à Tam Tam. Merci beaucoup Jean Désir, auteur, médecin et passionné du Nord. Merci Mauricio Gatti, chercheur associé au Centre universitaire d'études de recherche autochtone, Université Laval à Québec. Et Mégouèche, du fond du cœur, Joséphine Bacon, c'est très gentil d'être passé à Tam Tam.